Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle mission impossible! Jésus demande à ses apôtres de convertir Jérusalem, qui venait de persécuter Jésus, non seulement Jérusalem, mais toutes les nations, toutes les nations. Impossible humainement devant des nations païennes nombreuses. Saint Augustin faisait remarquer que c'est parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité qu'ils ont répondu oui à cet appel à la mission. Ils n'ont pourtant pas vu la promesse de la conversion de ces nations. Nous, 2000 ans après, nous avons vu la réalisation de la promesse. Il y a 2 milliards de baptisés dans le monde, rien que pour l'Afrique. En 1900, il y avait 2 millions de catholiques en Afrique. 1900. En 2015, il y a plus de 220 millions de catholiques. Donc en 115 ans, une croissance exceptionnelle. La promesse de Jésus s'est réalisée. Nous n'avons pas vu Jésus ressuscité, nous avons vu la réalisation de la promesse. Eux ont vu Jésus ressuscité, mais n'ont pas encore vu la promesse se réaliser. Si bien que nous avons une grâce d'avoir vu cela. Et donc nous pouvons partir de l'effet, l'évangélisation mondiale, et remonter à sa source, la résurrection de Jésus. Cette résurrection de Jésus est quelque chose de bien réel. Ce n'est pas le produit d'une imagination. Ça sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, je voudrais avec vous approfondir le linceul de Turin qui nous renvoie à sa passion et à sa résurrection. Saisis de frayeur, les disciples croient voir un fantôme, un esprit. Jésus leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Puis Jésus mange du poisson devant eux. On ne peut pas dire que la résurrection soit le produit d'une imagination folle, comme le disaient les modernistes, en disant « il suffit de croire que Jésus est ressuscité ». Non, c'est la résurrection qui a fait la foi, et ce n'est pas la foi qui a fait la résurrection. Saint Pédis a lutté contre cette hérésie. L'autre élément concret de la résurrection du Christ, c'est les linges qui ont entouré son corps. Saint Jean insiste sur cela. Et voilà ce que nous dit l'Église dans son catéchisme. Saint Jean affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Cela suppose qu'il ait constaté dans l'état du tombeau vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine. L'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine. Il est conservé à Turin depuis longtemps ce qu'on appelle le Saint-Suaire, un linceul, un linge qui a été rapporté comme entourant le corps de Jésus. Je voudrais vous en parler maintenant comme un élément concret pour notre foi, en sachant que si ce linceul n'était pas le vrai linceul qui avait entouré le corps de Jésus, ça ne changerait pas notre foi en la résurrection, puisque elle s'appuie sur d'autres raisons encore plus certaines que j'ai évoquées le jour de Pâques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur le site internet de la paroisse ces homilies pour Pâques. Je voudrais répondre à 4 questions par rapport à ce linceul. Est-ce que c'est un tissu qui a 2000 ans? Est-ce qu'il provient de Jérusalem? Si c'est le cas, est-ce qu'il aurait entouré le corps du Christ? Et enfin, est-ce une raison supplémentaire de croire à la résurrection? Est-ce un tissu de 2000 ans? Les plus anciens d'entre nous se rappellent peut-être qu'en 1988, les trois laboratoires avaient, après une étude au carbone 14, déclaré que le tissu du Suaire de Turin datait du Moyen-Âge. Depuis, le temps a passé, et plusieurs expériences ont eu lieu à nouveau, notamment qui ont montré que des éléments pouvaient modifier le taux de carbone 14 et donc rajeunir le tissu, notamment des moisissures de carbonate de calcium. Mais surtout, en avril 2022, un institut de recherche de l'État italien a étudié au rayon X le lin qui peut, par des périodes bien précises, se casser. Et cet institut a découvert la date, une date du 1er siècle, en comparant avec un tissu notamment de 73 de Masada en Terre Sainte. Enfin, il y a aussi quelque chose qui n'est inexplicable, c'est que ce tissu, l'image sur le linceul, avec l'intensité qu'elle a, contient une information qui permet de recréer une image en trois dimensions grâce à un ordinateur. Ça a été fait en 1979. On ne peut pas raisonnablement penser qu'un faussaire du Moyen-Âge aurait pensé que des siècles après, un ordinateur aurait enfin découvert son information en trois dimensions qu'il avait inscrite dans l'image. Donc c'est un tissu ancien de 1000 ans. Est-ce qu'il provient de Jérusalem ? Plusieurs choses en donnent une forte probabilité. Tout d'abord, il a été relevé des pollens typiques de cette région. Ensuite, et personnellement ça m'a touché, on a découvert des petits morceaux de pierre, d'une pierre caractéristique de la région de Jérusalem, sur les pieds, le genou et le nez. Ce qui nous fait penser aussi aux chutes du Christ durant le portement de croix. Est-ce un tissu qui a entouré le corps du Christ ? De très nombreux détails montrent qu'il y a une correspondance entre l'image et la passion de Jésus. Parmi ces très nombreux détails, je voudrais en relever un qui m'a personnellement étonné. Dans l'image, le sang a une couleur tout à fait spéciale qui reflète une enzyme qui est produite par le foie dans le cas de très graves souffrances, ce qui peut être le cas pour quelqu'un qui a été torturé. Avant ces dernières années, il était impossible pour quelqu'un qui voulait faire une icône de penser à cette enzyme et à la couleur du sang qui y correspond. Ça a été trouvé en 2015. Encore bien d'autres choses, mais je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais aborder maintenant cette dernière question. Est-ce une raison supplémentaire de croire à la résurrection ? Il n'y a pas de traces de putréfaction sur le tissu. Il y a des traces de sang, des traces d'éléments biologiques qui montrent que la personne a extrêmement souffert, mais il n'y a pas de traces de putréfaction. Et en plus, étudié au microscope, ce tissu montre que les fibres n'ont pas été abîmées. Donc le tissu n'a pas été arraché du corps, comme normalement on le ferait pour quelqu'un qui serait blessé, comme on arrache un pansement d'une blessure. Le corps a comme traversé le tissu. Il n'a pas déformé, abîmé le tissu. Je le redis, tout cela nous aide dans notre foi à la résurrection. Il y a bien sûr d'autres preuves bien plus certaines que le linceul de Turin, mais pour nous c'est un cadeau à notre époque de pouvoir avoir ces informations pour nous. Alors pourquoi je vous parle du linceul ? Non seulement pour illustrer que la résurrection est quelque chose de bien concret, ce n'est pas une imagination folle, mais aussi parce qu'il y a un lien entre le linceul et la messe. Dans cet évangile, le Seigneur s'est fait reconnaître à ses disciples à la fraction du pain à la messe. Le linceul de Turin nous rappelle la passion de Jésus et sa résurrection. Nous savons de façon historiquement prouvée que nos nappes d'autel ne sont pas le reflet de nos nappes de table. Nos nappes d'autel ont des caractéristiques différentes. Elles sont blanches, c'est vrai, mais elles sont voulues normalement en lin, d'une certaine forme, pour rappeler le linceul de Turin. Le blanc nous rappelle volontairement le linceul de Turin. Cela nous renvoie à la messe, à la fraction du pain, où la messe n'est pas simplement un rappel de la passion de Jésus, mais l'actualisation du sacrifice de Jésus, de façon non sanglante. À la messe, sous l'apparence du pain, c'est Jésus ressuscité qui vient. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est réellement lui. Eh bien, par la foi, reconnaissons Jésus qui vient à nous à la fraction du pain. Amen.